Voilà, merci de nous avoir rejoints ce soir, mais c'est une joie pour moi aussi de vous rejoindre et de m'associer à vous. On se connaît pour certains, bien sûr, on s'est déjà fréquenté un petit peu. Et puis, c'est vrai que j'ai bourlingué beaucoup dans la région quand même, de droite et de gauche, à plusieurs endroits. Je suis venu à Caussade, à Moissac, il y a de nombreuses années, hein, donc j'ai vu plusieurs pasteurs d'ailleurs passer ici, et l'adresse je la connais bien, mais là, au-delà de l'adresse postale, l'important c'est de vous rencontrer avec votre adresse qui est en Jésus-Christ, hein, parce que quand Paul écrit par exemple aux Thessaloniciens, c'est ce qu'il leur dit, hein, à ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est notre véritable adresse, hein, d'accord ? Et ça, c'est le plus important. Donc, moi, bien sûr, je connais l'Évangile. Je suis pasteur retraité, mais actif quand même. Donc, j'ai connu l'Évangile tout jeune et je me suis converti dans la région toulousaine. Donc, à Toulouse, dans les années 60, ça remonte loin, hein, déjà. Et donc, le prédicateur que j'ai entendu pour la première fois, alors que je venais d'un milieu catholique, c'était un prédicateur américain qui était de passage, il s'appelait Billy Graham, et à l'âge de 13 ans, donc en l'année 63, j'ai entendu cet évangile qui m'a percuté pour la première fois immédiatement, et des années après d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le rencontrer dans les années 80, Billy Graham, 86 je crois que c'était, lorsque il y a eu, vous savez, Mission France, Mission Monde, etc. Et j'étais allé à Paris, puisqu'on était un des sites dans la ville où j'étais, qui allait retransmettre la campagne d'évangélisation tenue au, je crois que c'était à Bercy déjà, hein. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à la fin et d'aller lui dire, en telle année, vous avez prêché l'évangile dans la ville de Toulouse, et j'étais un de ces jeunes garçons qui étaient là et qui découvraient pour la première fois l'évangile et qui est resté comme un petit peu scotché, étonné, émerveillé de ce qu'il entendait dès la première fois et qui a percuté son cœur. Et depuis ce jour-là, eh bien, je marche avec le Seigneur et le Seigneur essaye de marcher avec moi parce que c'est pas toujours... On n'est pas toujours, nous, du moins c'est la perception qu'on en a, bien sûr, mais notre perception n'est pas toujours juste, hein. Au-delà de nos perceptions, il y a les engagements que le Seigneur a avec nous et qui sont des engagements extraordinaires, l'alliance dans laquelle on est entré et qui est quelque chose de magnifique. Donc ce soir, il est avec nous et ça c'est une bénédiction et une promesse qu'il nous a faite. Voilà, donc si je vous parle de la famille, c'est pas parce que ça fait partie d'un des thèmes importants de l'écriture et j'ai mon étiquette pastorale qui fait que je suis à même de vous parler de la famille, parce que ce sont des thèmes bien sûr que l'on traite en tant que pasteur et l'Église elle-même, vous le savez, est une famille, donc... l'image est employée dans les Écritures pour parler de l'Église en tant que famille. Mais je vous en parle aussi parce que je suis moi-même, je viens d'une famille et j'ai aussi appris à construire une famille avec mon épouse et j'ai eu donc 3 enfants et 6 petits-enfants. Donc je peux avoir une certaine compétence quand même pour parler de la famille aussi par la pratique et le vécu. Et je vous donnerai peut-être, j'aurai l'occasion, si cela vient pour illustrer mes propos, de vous parler de ma famille qui est une famille qui, à notre suite avec mon épouse, s'est attachée au Seigneur et ils marchent tous avec Dieu, leurs conjoints également. Et les petits-enfants, ils sont tombés dans la marmite étant jeunes. Déjà sur les 6, il y en a 3 qui sont baptisés. Donc ça suit vraiment... le chemin et la grâce de Dieu, la révélation de Dieu vient et se transmet. Il y a une bénédiction, je crois, sur les familles qui se transmet et nous sommes là pour le comprendre, l'accepter et pouvoir transmettre cette bénédiction, la recevoir peut-être si on en a besoin et la transmettre parce que c'est vraiment ce que Dieu fait. Il nous permet de recevoir une bénédiction appropriée pour nos familles. Bien sûr, on aurait pu s'adresser pour parler du thème à des sociologues, des psychologues, des historiens, des gens d'église, diverses, d'autres religions également. Mais on pourrait recueillir d'ailleurs des informations intéressantes, hein. Certainement, d'autres éléments, peut-être seraient pour nous inintéressants ou irrecevables ou inutiles. Parmi ceux que nous avons cités d'ailleurs, les gens peut-être éminents qui sont là pour nous parler selon leurs compétences et études, nous parler de la famille, eh bien certains affirment que le mariage et la famille traditionnelle, il faut le considérer peut-être déjà comme quelque chose du passé. C'est obsolète et le mot même de mariage semble parfois quelque peu désuet. La rupture des mariages est devenue une monnaie courante et le mot même de mariage semble quelque chose d'un petit peu désuet. On préfère souvent d'ailleurs à cet engagement à l'union du mariage, l'alliance du mariage, puisque c'est une alliance, on préfère l'union libre, le mariage à l'essai, des relations non structurées ou d'autres formes encore de mariage qu'on n'arrête pas d'inventer. Les jeunes, nos enfants, reçoivent plus d'éducation contre le mariage et la vie familiale, malheureusement, qu'en sa faveur. Alors notre approche, c'est celle de la foi. C'est de donner une base biblique, des fondements bibliques. Et notre approche, c'est celle de la confiance dans le dessein de Dieu que nous sommes appelés à découvrir ou même si nous pensons le connaître, à le redécouvrir. Et peut-être je suis venu aussi pour cela, pour vous permettre de redécouvrir ce que Dieu a envisagé et prévu pour les familles. Donc notre approche du sujet s'appuie sur un socle solide, immuable, qui nous ramène aux racines mêmes de l'humanité dans le cadre de la foi chrétienne et de la révélation qui nous a été transmise comment ? Par les Écritures, par la Bible, bien sûr. C'est là que nous puisons nos fondements. Donc, ce soir, mon rôle, c'est en tant que pasteur, c'est celui-là. C'est un sujet, la famille, qui est vaste. Hein. Ne croyez pas qu'en trois réunions, on va boucler le sujet. Hein. On va faire que l'effleurer, certainement. Et tout en reposant des fondements essentiels. Mais bien sûr, je sais aussi que dans votre église, comme dans toutes les églises, vous travaillez dans votre église locale à découvrir le dessein de Dieu en ce qui concerne la famille, le dessein de Dieu pour l'homme, pour la femme, pour le couple, pour la vie conjugale, le rôle des parents, la relation à l'enfant, la communication, l'amour, la gestion des conflits, la vie spirituelle, le divorce, le remariage, les dysfonctionnements dans la famille, la vie matérielle, les finances, autant de choses, et on pourrait en rajouter, qui concernent la vie de famille, d'accord ? Et qui peut concerner les problèmes également que l'on peut rencontrer dans notre vie familiale. Nous venons d'une famille, nous sommes dans une famille, et j'inclus toutes les formes de famille. Même si vous êtes seul à élever vos enfants, eh bien, vous êtes une famille et vous faites partie d'une famille. Vous êtes venu d'une famille et vous allez peut-être, votre famille va peut-être évoluer dans le temps, mais c'est quelque chose qui est fondamental, bien sûr, et qui fait partie de nous. La famille que vous avez connue est en vous et vous êtes dans une famille. Elle est en vous et quelque part, psychologiquement, quelque part, cette famille d'où vous venez, de laquelle vous venez, elle est en vous, hein, et vous en êtes porteur. Non seulement physiquement, par les traits physiques, mais aussi par des traits de caractère, par l'héritage que vous avez reçu, peut-être. Je parle de l'héritage au sens large, hein. Peut-être il y a un héritage matériel que vous avez reçu, mais il y a peut-être aussi, il y en a qui font bof, pas grand-chose, mais aussi par l'hérédité, hein, bien sûr, parce que, eh bien, ah oui, toi tu ressembles à ton père ou à ta mère, hein. Il y a tel trait, hein. Oh là, il y a vraiment des traits caractéristiques et ça nous arrive de le dire concernant d'autres personnes autour de nous, bien sûr. Vous savez, la majorité des gens, des Français même, quand on voit des reportages à la télévision, on lit des magazines, sont attachés à la famille, hein, les gens. Qu'on le veuille ou pas. Malgré tous les difficultés que la famille peut rencontrer, les gens sont attachés à la famille. Et malgré tout ce qu'il pourrait lui reprocher même, hein, ils sont irrémédiablement ramenés à considérer la famille comme le socle indispensable à la construction d'une personne humaine. Et nous verrons dans la deuxième session, demain soir, les choses fondamentales que nous apprenons au sein de la famille. Et si vous voulez avoir un aperçu complet, je vous encourage à être présent pour les trois rencontres. Nous sommes tous donc issus d'une famille, nous appartenons à une famille, quel que soit, à l'heure actuelle, le cadre dans lequel nous évoluons et où le passage par lequel nous passons aujourd'hui. Et donc, pour parler de la famille, vous avez remarqué que dans le titre, il y a origine, fondement, bénédiction. Origine ce soir, fondement demain soir et bénédiction dimanche matin, d'accord? Parce qu'il y a une bénédiction, il faut vraiment Dieu bénit la famille et prêt à bénir la vôtre encore. Même s'il y a eu des échecs, même si vous êtes passé par des moments difficiles, Dieu vous aime et Dieu aime la famille dans laquelle vous êtes, que vous formez, d'accord? Apprenez à recevoir la bénédiction que Dieu a pour vous. Parce que moi, je suis venu pour vous apporter quelque chose de la bénédiction divine aussi pour la famille. Et je vous donnerai, comme je vous l'ai dit, des témoignages par rapport à la bénédiction que moi j'ai connue dans ma propre famille, avec la famille d'où je viens et aussi la famille que j'ai pu former et qui évolue maintenant au travers des enfants et des petits-enfants. Alors, pour parler des fondements, autant partir du premier verset de la Bible, au commencement, Dieu. D'accord avec ça? Au commencement, Dieu. Oui, parce que c'est là où se trouvent les fondements, hein. Bien des choses n'existaient pas encore, rien n'existait, mais pour comprendre ce qu'est la famille, il faut partir de la personne elle-même de Dieu. Parce que s'il n'était pas ce qu'il est, il ne nous aurait pas créés comme nous sommes. Non seulement individuellement, parce qu'on sait, on est aussi personnellement une unité composée. Dieu est une unité aussi composée, parce que le mot Dieu, en hébreu Elohim, c'est au pluriel. D'accord, il est pluriel dans son orthographe, dans sa grammaire allemande, mais c'est un pluriel il a également le sens d'une unité. C'est une unité composée. Nous allons le voir tout à l'heure au travers d'un schéma. Mais j'aimerais qu'on lise un autre texte dans Éphésiens 3, versets 14 à 21. Ah, c'est un beau passage, hein? Ah oui, très beau passage. Qu'est-ce qu'il dit? Vous le connaissez très bien, en plus, je le sais. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille, dans les cieux et sur la terre, tire son nom. Le Père, d'ailleurs, le mot famille, ça vient, le mot en grec c'est patria, hein, pater même en latin, et donc le mot famille, patria, vient du mot pater et du mot père. Donc c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Amen. Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Christ Jésus dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. La Bible nous dit donc que, très clairement, que l'origine de la famille est en Dieu. Pourquoi partir de Dieu pour parler de la famille? Qu'est-ce que Dieu, peut-être certains vont réagir, certains voient Dieu, vous savez, comme un vieux célibataire qui est là-haut, quelque part dans l'univers, dans le ciel ou très loin. Qu'est-ce qu'il peut savoir de la famille, des problèmes que moi je connais dans mon humanité? Dieu a-t-il quelque chose à nous apprendre à ce sujet? Il pourrait apparaître pour certains donc comme un Dieu lointain, distant, solitaire, étranger à notre monde qui est relationnel, d'accord? On vit, on baigne dans les relations. À une société humaine donc fondée sur les relations qui lui servent de socle, celle de la famille. Quelle que soit sa forme d'ailleurs, selon les époques, les cultures, les modes, parce que quand on parle de famille en Occident, c'est pas des fois tout à fait la même chose de la famille africaine où il y a un sens plus large de la famille en Afrique, d'accord ? Mais c'est la famille quand même. On parle de la famille. Et donc, en regardant de plus près, nous découvrons dans les Écritures, la Bible, qui est vraiment Dieu. Et quelle est sa nature et son identité? On l'a dit tout à l'heure, Elohim, pluriel, est pourtant un. Il est un et pluriel. Alors, Elohim, donc, est un nom pluriel, on l'a dit, on l'a déjà manifesté, c'est une unité composée. Dieu est un en trois personnes, Père, Fils, Esprit Saint. Et donc, déjà, on peut se dire que Dieu, eh ben, il n'est pas seul, en fait, hein. D'accord? Et dans ces trois-là, quand ils sont ensemble, et ils sont toujours ensemble, il y a des choses qui se passent, des choses intéressantes, et des choses que l'on apprend même à vivre dans l'Église, des choses qu'on peut vivre dans la famille. Donc, j'ai fait une petite représentation schématique, hein, de la Trinité, Dieu. Voilà, un grand cercle, et puis trois cercles au milieu. Le Père, l'Esprit Saint, le Fils. Et ils se recoupent les trois dans un centre. Et ce centre, c'est l'agapé, hein, c'est l'amour. Vous savez que c'est le mot grec pour parler de l'amour avec le, on va préciser un petit peu le sens qu'il peut avoir. Mais c'est fondamental, hein, ce point-là, agapé. C'est ce qui tient les trois ensemble et qui les fait fonctionner ensemble. Ça les retient ensemble. Ils sont inséparables parce qu'ils sont la source même de l'amour. La Bible nous dit que Dieu est amour. D'accord ? Donc, on a représenté... vous savez, quand on fait un schéma, c'est très limité. On essaye de se représenter des choses qui sont difficiles à représenter. D'accord? Quand on verra le Seigneur dans la plénitude de la révélation qu'il nous accordera de lui, alors, on fera pas de schéma, on n'aura pas besoin. On saura vraiment, on connaîtra comme on a été connu. Et donc, c'est un ensemble qui ne peut être brisé. Hein? Il y a quelque chose qui le retient ensemble et ça, c'est indestructible. Cet amour agapé est indestructible parce que c'est la base de leur fonctionnement. Les autres formes d'amour, Dieu n'en a pas besoin. Même si on le trouve dans l'Écriture, mais Dieu est surtout amour agapé. Donc à partir de là, c'est quelque chose qui peut pas se détruire. D'accord? D'ailleurs, Jésus dira par exemple, moi et le Père, nous sommes un. D'ailleurs, ils sont tous les trois unis par ce centre, mais ils sont aussi unis les uns deux par deux également. Vous l'avez remarqué, hein, bien sûr. Il y a une relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Par exemple, Jésus dira, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Au chapitre, dans un des chapitres, chapitre 17, verset 2, c'est la prière sacerdotale. Vous vous souvenez? La prière du grand prêtre dans l'évangile de Jean. Mais dans ces quatre chapitres, 14, 15, 16 et 17 de l'évangile de Jean, Jésus parle du Père, de lui et du Saint-Esprit également. Vous avez remarqué? Et il montre quels sont les rôles qui sont joués par chacun des membres de la Trinité. Par exemple, oui, pour citer un autre exemple, il nous est dit que le Saint-Esprit prend de ce qui est du Père pour nous le communiquer. Et vous avez remarqué comment Jésus honore constamment son Père. Mais vous avez remarqué aussi comment le Père, au moment du baptême par exemple, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Vous savez ce qui caractérise l'amour agapé? C'est que c'est une relation entre des personnes, alors là on parle de la personne divine, fondée sur le fait de donner ou de libérer toute la valeur d'une autre personne. Quelqu'un qui est animé de l'amour agapé, il n'est pas centré sur lui-même, mais il est capable de donner toute la valeur à l'autre, à son prochain, quel qu'il soit. D'accord ? On pourrait développer, mais je ne vais pas aller plus loin sur ce terrain-là. Donc ainsi, quand on parle de Dieu, de ces trois personnes en divine, en interaction, on découvre des étroites relations, des échanges, de la communication, de la communion, un espace de communion. D'accord ? Il y a de nombreux passages dans l'Écriture qui nous le montrent. Si on reprend le verset premier du livre de la Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, ou les premiers versets, il faut rajouter certainement le verset 2 également, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la parole de Dieu, la parole, c'est Jésus. D'accord ? Et il y a aussi le Saint-Esprit. Donc, les trois sont présents dès le moment de la création. Dans la divinité, il y a de la diversité et de l'unité également. Et on va essayer de voir comment, eh bien, cette triunité, si vous voulez, eh bien, a eu un impact au moment quand Dieu a créé l'homme, parce qu'il a créé l'homme à son image, selon ce qu'il est lui-même, d'accord ? Et tout ce qu'on retrouve dans l'être humain, dans ses relations également, dans ses rôles, dans ses fonctions, on le retrouve dans les fonctions fondamentales, celles de la famille, on le trouve en Dieu, d'accord ? Il y a le Père, il y a le Saint-Esprit, il y a le Fils. Alors le Père nous parle de quoi ? D'origine, par exemple. Hein ? Ok ? Il nous parle de la tête, bien sûr, de celui qui semble là dans une position d'autorité, n'est-ce pas ? Il peut parler de sagesse également, représenter la sagesse. Son rôle, c'est le rôle paternel. Il y a non seulement l'autorité, mais la protection également. D'accord ? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, comme on le voit au moment de la création, le Saint-Esprit qui a enveloppé cette terre, cette planète Terre, quand Dieu a parlé, le Saint-Esprit a commencé à agir. C'est comme, là, il est dit, la main de Dieu, par exemple. C'est celui qui exécute. Il est, ce qu'il caractérise, c'est sa puissance. Il y a une puissance également dans le Saint-Esprit. Il peut aussi être assimilé quelque part au rôle maternel. Il est consolateur, le côté féminin de la race humaine. Donc il peut être relié au côté féminin de la race humaine. Parce que si Dieu a créé l'homme à son image, il n'a pas créé que les messieurs à son image. Hein. Non, ça va, vous n'aviez pas de problème avec ça. Il a un rôle maternel. Il donne la vie, créé donc à l'image de Dieu. Et d'ailleurs, dans les noms de Dieu, le nom El Shaddai, qui est traduit tout-puissant. Littéralement, c'est pas exactement ce qu'il signifie en hébreu. Hein. C'est celui qui a de nombreuses mamelles. Oui. Donc le féminin est en Dieu aussi. Hein. D'accord ? Il y a le masculin et le féminin. J'espère que c'est pas un scoop hein, pour vous. Voilà, donc, une approche de qui est Dieu pour nous permettre de comprendre qui nous sommes et ce qu'est la famille. C'est pour ça que je suis parti de là, hein, puisqu'on repose des fondements, il vaut mieux qu'on aille à la source. Alors, là, le point suivant, le dessein divin sur la terre, le dessein divin en général, c'est un dessein relationnel, qui touche aux relations. D'accord ? La relation les uns avec les autres, bien sûr, la relation humaine. Les premières relations que nous découvrons, c'est dans la famille, non ? Oui, bien sûr. C'est la relation également, la relation avec Dieu. Il y a une relation spirituelle avec celui qui est notre origine. Mais vous allez voir aussi que nous avons une relation avec nous-mêmes. Est-ce que vous savez que vous êtes en relation avec vous-même ? Non, vous ne savez pas ? si bien sûr Dieu nous a équipés pour qu'on ait conscience de soi. D'accord ? On est corps, âme et esprit. Notre esprit, eh bien, nous sert est ouvert sur le monde spirituel. Hein, quand on prend le mot dans le sens biblique du mot, bien sûr. Et puis, notre âme, avec l'intelligence, la volonté, les émotions, les sentiments, nous donne une conscience de nous-mêmes, qui nous sommes, ce que nous sommes. D'accord ? Dieu nous a équipés pour ça. Vous connaissez le plus grand commandement, Matthieu 22, versets 37 à 39. Tu aimeras, c'est Jésus qui l'a dit, dans un échange qu'il a eu avec quelqu'un, qu'il a présenté comme cela. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les trois relations fondamentales. Dieu, le prochain et moi-même. Voilà. Dieu, les autres et moi-même. Et la vie, qu'est-ce que c'est que la vie ? La vie, c'est un voyage au sein des relations diverses qui commence dès le sein maternel. Eh oui, dès le sein maternel. Commence notre voyage dans la vie, avec la relation, bien sûr, avec notre maman d'abord, et ensuite avec tous ceux qui ont amené la vie, bien sûr, on va le voir, hein. D'ailleurs, demain soir, le père, bien sûr, et ensuite la fratrie, et puis un peu plus loin, les autres relations qui petit à petit vont apparaître, vont se manifester. Donc la vie est un voyage au sein des relations qui commence dès le sein maternel. Et c'est là où commencent les problèmes aussi. Hein. Non ? Aussi, parfois. Eh oui, oui, oui. C'est pas toujours simple, hein. On va en parler, on va avoir l'occasion d'évoquer les choses, on va faire qu'effleurer, comme je vous l'ai dit, bien sûr. Donc, la relation père-mère-enfant, on l'a déjà évoqué, pour l'homme, le corps, l'âme et l'esprit, parce que nous sommes dans une anthropologie, si vous voulez, dans une vision de l'homme qui est biblique, d'accord ? Que tout votre être, dit Paul aux Thessaloniciens, le corps, l'âme et l'esprit soient conserver, garder irrépréhensible pour le jour de la venue de Christ. D'accord ? Bien. Donc, quel est le plus grand défi que nous avons dans la vie ? Allez. Le plus grand défi, c'est de nous aimer, donc c'est le domaine des relations. Le plus grand défi dans la vie, c'est de réussir nos relations. Hein. On aurait tellement tous ici beaucoup de choses à dire. Hein. Oh, oh. Non ? Mais oui, on a raconté, hein, long sur nos relations, hein, depuis que nous sommes venus au monde, depuis qu'on commence à avoir des souvenirs. Ah oui, la vie, c'est les relations. Ah, les relations heureuses, les relations difficiles aussi, les relations problématiques, les traumatismes aussi peut-être qu'on a pu avoir, tellement de choses, les relations. Mais la vie sans les relations, c'est plus la vie. Elle n'existe plus. D'accord ? Donc, le plus grand défi pour nous, et c'est pour ça que c'est intéressant de parler de la famille, c'est fondamental, et de travailler là-dessus tout au long de l'année, tout au long des années de ministère. Tous les pasteurs qui sont appelés à venir exercer leur ministère ici sont devant un défi, c'est d'amener les hommes à construire leur vie et leurs relations, celles fondamentales de la famille déjà, sur des bases, sur des valeurs qui sont celles du royaume de Dieu. Parce que moi je suis venu pour ça. Hein. Donc, vos pasteurs, c'est ce sur quoi ils travaillent également. L'homme est une créature de relation, hein. D'accord ? Le plus grand défi de notre vie, sont les relations, bien sûr. Pourquoi l'homme donc est une créature de relations ? Sa construction, même corporelle, psychique, spirituelle, donc lui viennent des relations, bien sûr. Les trois choses que nous devons retenir, ces plus profonds problèmes sont révélés au travers de ses relations avec son prochain, pour l'homme. Pour l'être humain que nous sommes. Ses plus profonds problèmes sont révélés au travers des relations avec son prochain. Ses plus profonds besoins sont satisfaits au travers des relations psychiques, tout ce que vous voulez, physique, la nourriture, différentes et d'autres choses de notre vie physique également. Ses plus grandes joies, il les éprouve dans le domaine des relations. Ses plus profondes guérisons viennent souvent aussi au travers des relations. D'accord ? Bien. Donc, c'est vraiment le plus grand défi de la vie, hein ? Les relations. Amen. C'est pour ça que Jésus nous a dit que le commandement le plus important, c'est « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » C'est quelque chose de toute ta pensée. C'est quelque chose qui nous prend totalement, corps, âme et esprit, d'accord ? Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout le reste, bien sûr, ça vient se bâtir autour de ça. Mais ça, c'est le fondamental, n'est-ce pas ? C'est l'essentiel. Donc, la famille est la première structure relationnelle faite à l'image de Dieu. D'accord ? Le royaume de Dieu est basé sur les relations et non sur des règles. Tu ne feras pas, tu ne prendras pas, tu ne diras pas, tu n'iras pas, non. Est fondé sur des relations et non sur des règles. D'ailleurs, vous vous souvenez, les pharisiens, avec le système légaliste, hein, Jésus, les difficultés qu'il a eues, parce qu'ils étaient tellement pris dans leur système religieux qu'ils en oubliaient de répondre aux besoins fondamentaux des gens. Hein. Vous vous souvenez, les pharisiens, hein. Ah, comment tu fais une guérison le jour du sabbat ? Comment ça ? Dans le temple, un homme est guéri, il avait la main sèche, il est guéri. Tu guéris le jour du sabbat ? Mais tu transgresses la loi. Mais la loi, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même, d'abord, d'accord ? Et puis, il y a d'autres exemples également. Lorsque les disciples ont ramassé des épis, ils étaient en chemin et ils avaient envie de grignoter quelque chose. Il n'y avait pas des mars hein, ou à l'épicerie du coin, le supermarché du coin. Donc, c'était des épis hein, qui froissaient dans leurs mains pour manger quelques grains de blé ou autre, d'une autre céréale également. Et ça offusquait également les pharisiens. Le jour du sabbat, ils font ce qui n'est pas permis. Voilà. Et le royaume de Dieu, donc, c'est bâti sur des relations et non pas sur des règles. OK ? La relation à Dieu étant, bien sûr, la relation fondamentale. Alors, il y a des faits relationnels qui sont communs à tous les hommes. Chacun d'entre nous naît avec des besoins créés par Dieu. Il y en a... Vous pourriez en citer des besoins créés par Dieu. Quels sont des besoins fondamentaux que nous avons dès que nous venons au monde ? Allez, levez la main. Respirer, besoin physiologique. Après, ouais, vous êtes très centré sur le corps. Hein. Ah là, à ma droite, devant, premier rang. Besoin d'amour, tout à fait. Besoin d'amour, c'est tout à fait juste. Quel autre besoin nous avons ? La joie, oui, besoin d'éprouver de la joie dans l'environnement où nous sommes, bien sûr. L'affection, peut-être, la protection. La protection, tout à fait, c'est tout à fait juste. Et j'ai intitulé ça « besoin de sécurité ». On a besoin de sécurité. C'est pour ça que Dieu nous met dans ce cocon, dans ce cadre familial, avec un père, une mère qui vont apprendre d'une manière complémentaire à s'occuper de nous. Sécurité, hein, dans lequel il y a bien sûr la protection. Et on a cité les besoins de nourriture physiologique, donc on a besoin de reconnaissance, de compter pour quelqu'un également. C'est important que nous comptions pour quelqu'un. Et vous savez comment ça peut abîmer quelqu'un lorsque il se rend compte dès ses premières années qu'il ne compte pas vraiment, que c'est une quantité négligeable parce que des parents n'ont pas su l'aimer, s'occuper de lui. Où ils avaient tellement de difficultés eux-mêmes qu'ils n'ont pas pu transmettre. C'est terrible, hein ? Un enfant qui est né sous X et qui se retrouve à la DAS, pour qui il compte ? Alors bien sûr, il y a la possibilité pour lui de trouver d'autres figures qui vont jouer le rôle que les parents auraient dû jouer, heureusement. Et Dieu est bon, il y a des gens qui sont arrivés à se construire quand même, et bien même. Ils s'en sont sortis dans la vie. Gloire à Dieu pour cela. Amen. Il y a des besoins spirituels également. Il y a des besoins spirituels que les parents sont appelés aussi à combler. Ça fait partie. Je sais que le monde autour de nous, pour une grande part, pas pour tout le monde, eh bien, néglige cet aspect-là. Et l'enfant, dans ce domaine-là, il a s'élevé tout seul ou avec les influences diverses qu'il peut recevoir. Mais notre rôle, c'est vraiment de combler aussi ses besoins spirituels. Deuxième point, l'effet relationnel commun. On a dit, chacun d'entre nous naît avec des besoins créés par Dieu. Dans le plan de Dieu, les familles devraient être le premier canal pour combler ses besoins. C'est un fait, cela, hein? Il n'y aura jamais aucun substitut à la famille. Jamais aucun. Comme aucun parent n'est parfait, c'est le troisième point. Nous avons tous grandi avec des besoins légitimes qui n'ont pas été comblés. Parce que nous sommes tous imparfaits. Tous. Ceux qui voudraient vous faire croire que c'est les parents parfaits ou les couples parfaits, etc., ça n'existe pas, ne les croyez pas. Il faut qu'on soit authentique et dans la transparence, non pas d'étaler tous nos problèmes à tout le monde n'importe comment, mais nous avons besoin aussi les uns des autres et besoin de l'instruction d'apprendre pour pouvoir être aidé dans certains de nos problématiques et de nos besoins. Donc, aucun parent n'est parfait. Troisième point, nous avons tous grandi avec des besoins légitimes non comblés. Ce qui crée des troubles à l'intérieur de nous-mêmes, bien sûr, c'est lorsque ces besoins ne sont pas comblés. Il y a de la colère, il y a de l'anxiété, voire même des angoisses. Il y a des peurs qui sont là, qui s'établissent et qui vont peut-être faire nous accompagner tout au long de la vie parce que on va pas apprendre à les dominer, à les gérer et peut-être à les dépasser. Et oui, c'est possible. Ça peut amener donc toutes sortes de dysfonctionnements. Quand ces besoins sont comblés, c'est le quatrième point, nous nous sentons aimés. Quand ils ne le sont pas, nous sommes blessés, en colère, il y a comme un manque. Hein? Voilà. Bien. Ce sont les faits relationnels communs. Une autre étape maintenant, où nous allons dire que la famille, c'est une création divine. Le livre des origines, c'est la Genèse, hein, vous le savez. Des origines, en général d'ailleurs. Les origines de toutes choses. Les cieux, la terre, les étoiles, la nature, les animaux, les plantes. Et je parle des grandes familles, des grandes espèces, bien sûr, des grands ensembles qui ont été créés. Chapitre 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa, mâle et femelle, littéralement, il les créa. Hein? Le deuxième récit, le même nous est rapporté au chapitre 2, sous un autre angle. Le texte revient sur la création de l'être humain, et en particulier sur la création du premier couple. Ils sont nommés Adam et Ève. Et cette création précède la chute de l'homme, précède la loi, précède l'Église. Donc, la création de la famille, du couple, c'est pas une création a posteriori, mais a priori. Dès le départ, dès les fondements, la famille a été pensée de cette manière-là et voulue de cette manière-là. Toutes les autres formes d'alliance, d'association mènent à la mort. La relation homosexuelle ne produit rien, ne donne rien par rapport à cela, d'accord? Quand Dieu dit à l'homme, vous multiplierez, etc., bien sûr, on essaye de contourner le problème techniquement, médicalement, et c'est un sujet aujourd'hui de société important. Hein, mais là, moi je suis sur des bases bibliques, hein. Cette création donc précède, c'est le premier moyen choisi par Dieu. Et les conséquences, c'est que, on va dire que le couple et la famille appartiennent à l'ordre créationnel. On pourra rien y faire. Vous pourrez jamais rien changer. Vous pourrez inventer tout ce que vous voudrez. Eh oui. Pour faire un être humain, il faut un homme et une femme. Ça, c'est incontournable. Il faut des éléments d'un homme et d'une femme. D'accord ? Eh oui. Donc, le couple et la famille appartiennent à l'ordre créationnel. Ils sont d'ordre créationnel, ils ne sont pas soumis à la culture, à la mode ou à l'opinion publique. Aujourd'hui, l'évolution de la société et l'évolution culturelle voudrait nous faire croire que la culture définit ce qu'est un couple, une famille, et qu'elle évolue avec la société, les mœurs du temps et l'époque traversée. Ben non, hein. Y a des fondamentaux qui sont là, qui resteront toujours là. Toute famille a ses racines dans le couple. C'est la cellule de base de la société organisée, l'union d'un homme et d'une femme qui prend la forme d'une alliance au travers du mariage, et c'est Dieu qui a rapproché Adam et Ève, d'accord ? Il a créé l'homme, il a créé la femme qui est son vis-à-vis, son pendant, si vous voulez. Et voilà, il l'a tiré de sa côte d'ailleurs, hein. Il n'a pas tiré de la tête ou du pied ou d'un orteil, non, de la côte. Il y a une espèce d'égalité là, mais de complémentarité également. D'accord ? Ce qui exclut d'autres formes d'union ou de famille qui nous sont proposées aujourd'hui, même si elles correspondent à un besoin de l'être humain de faire famille. Parce qu'il y a le besoin qui reste là. Et on essaye de recréer des familles, bien sûr. Un cadre familial, une ambiance familiale. Bien sûr, dans ces rencontres, nous parlons, nous, de la famille dite traditionnelle, celle qui est menacée de nos jours. C'est une notion, la notion même de la famille traditionnelle est de plus en plus attaquée, vous le savez, elle est raillée aujourd'hui et bien. Je vais apporter une conclusion pour cette première session, parce que ça fait déjà un moment que je parle et puis j'arrive à ma conclusion. Donc, déjà on a reposé des fondements, c'est que la famille transmet quelque chose de l'image de Dieu, de qui est Dieu. Elle nous parle de sa nature même, car il est lui-même pluriel. Trois personnes en relation, en communication permanente, en communion, s'aimant mutuellement et travaillant ensemble en équipe. D'accord ? La famille donc reflète qui est Dieu. La famille tire son origine du Père. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père avec un grand P, hein, le Père éternel. Père divin, de qui toute famille tire son nom. Elle vient du cœur et de la pensée de Dieu, tout simplement, de son identité même. Dieu dit oui à la famille et à chacune de nos familles. Il a une bénédiction pour elle, et nous verrons, en particulier dimanche, nous reprendrons ce verset, « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » C'est Dieu qui dit ça à qui ? À Abraham, hein. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. À nous de le croire et de le saisir, et de saisir la bénédiction que Dieu a pour nos familles. Quel qu'ait été votre parcours, même si vous avez connu des échecs, même si vous avez souffert, vous avez la possibilité de repartir et de reconstruire avec Dieu. D'accord ? Et d'apprendre des choses utile pour votre vie maintenant, d'accord, et pour votre avenir, pour l'avenir qui est devant vous, que Dieu va vous donne. Amen. Voilà, donc nous sommes là ensemble pour relever ce défi. Ce sera le message de dimanche matin, hein. Le défi, la famille comme un défi. N'ayez pas peur, ne vous laissez pas intimider, relevez le défi avec nous, d'accord ? Nous aurons aussi des témoignages, à partager. Je vous en partagerai aussi quelques-uns de personnels, puisque je vous ai dit que je suis père et grand-père, et je vois la main de Dieu sur la famille que Dieu m'a donnée. Voilà, que Dieu soit béni. On prie le Seigneur, et on le remercie pour son plan divin, pour son dessein divin. Je sais que ça peut représenter une difficulté pour certains qui ont vécu des choses particulières et difficiles dans leur famille, hein. Je le sais. Bien sûr, c'est tellement de choses que nous aurions abordées, mais faites confiance à Dieu. Vous voulez bien? et laissez-le vous conduire, même au travers des difficultés que vous avez connues. Seigneur, nous te remercions parce que c'est toi qui as voulu la famille, c'est toi qui as établi la famille, qui a créé la famille. Seigneur, nous te remercions parce que il y a de la joie dans cette famille, il y a de l'amour dans cette famille, il y a, Seigneur, de l'affection, il y a également du respect, il y a de l'honneur, comme nous le verrons demain soir, il y a de la sécurité, que ton nom soit béni, Seigneur, parce que c'est ce que tu es, c'est ce qu'il y a en toi, et c'est ce que tu veux partager avec nous. Que ta main soit étendue sur mes frères, mes sœurs, sur les familles de cette Église, et que chacune soit renouvelée et fortifiée pour saisir vraiment le plan que tu as pour elle. À toi la gloire, Seigneur. Nous te remercions et je te demande de bénir cette famille spirituelle qui est ici à Moissac, de l'encourager et de la fortifier à tous égards. Merci, Seigneur. Amen.